voudrais vous raconter l'histoire de la vitesse, ou plutôt l'histoire d'une fille. C'est une fille qui n'a pas de temps à perdre, pas le genre à attendre d'avoir toutes ses chansons bien prêtes avant de pointer son museau en studio. Elle préfère foncer et puis on verra bien. On prendra sa guitare et on prendra ce qui vient. La réponse est oui, mais quelle est la question? Elle a fait sienne cette devise de Woody Allen. Et celle d'Alain aussi. Vous connaissez cette citation du philosophe Alain? Le secret de l'action, c'est de s'y mettre. Écoutez bien, je répète car c'est le matin et vous n'y êtes pas tout à fait. Le secret de l'action, c'est de s'y mettre. Alain. Alors, elle s'y met avec son cœur, avec son corps, avec toute son âme. Elle y va. Ce n'est pas parce qu'elle est prête qu'elle y va. C'est parce qu'elle y va qu'elle est prête. Elle est un peu triste? Pas grave. Elle accélère. Elle est joyeuse? Très bien. Elle accélère aussi. Elle prend de la vitesse comme on prend son envol ou comme on prend une décision. Au fond, je crois qu'il y a deux types de personnes, deux catégories d'individus. Ceux qui, lorsqu'ils sont perdus en voiture et cherchent leur chemin, se mettent à ralentir, tout plein d'hésitation. Et ceux qui accélèrent, qui pensent qu'en allant plus vite, on trouvera plus vite la solution. La vitesse est leur ivresse, leur éthique, leur vivre vite, une liberté. Puisque tout s'accélère, autant y aller à fond. De fuir. On les soupçonne de fuir, d'être dans le déni, de ne pas savoir ralentir, de rajouter encore à l'agitation du monde. Mais ils s'en tapent, ils n'ont pas le temps de se poser toutes ces questions. Ils mettent The Passenger d'Iggy Pop en écrasant la pédale de droite et puisqu'on ne fait que passer, autant passer à la vitesse supérieure. Ils aiment les images de la vie qui défile derrière la vitre piquée de pluie et puis le soleil qui revient comme un éblouissement, le soleil qui lave tout d'un coup. Ils aiment cette guerre au fond de notre corps entre des émotions. Ça va tellement vite, trop vite peut-être même. Voilà la tristesse qui vient et puis la joie qui revient. Elle met une droite à la tristesse et elle reprend la tête. La vie, de toute façon, n'est que mouvement, disait Nietzsche. Et notre corps est ce théâtre où s'affrontent des passions contraires. Vivre vite, et si c'était la meilleure façon de coller au mouvement même de cette vie? Vivre vite, et si c'était en même temps, paradoxalement, la meilleure façon de goûter au charme du ralentissement? Pour en parler ce matin, j'ai la joie de recevoir Izia Higelin. Elle ressemble peut-être un peu à cette jeune fille, Izia, chanteuse et actrice, auteur, compositeur, interprète, qui faisait à 16 ans les premières parties d'Iggy Pop, et qui vient de sortir, aujourd'hui trentenaire, son 5e album, portant précisément pour titre « La vitesse ». Izia, donc, qui nous a rejoint sous le soleil de Platon, dans la caverne de France Inter, pour nous aider à réfléchir à cette belle question. Est-ce dans l'accélération ou dans le ralentissement que l'on se sent pleinement vivant?
Sous le soleil de Platon, Charles Pépin sur France Inter.
Izia Higelin, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes arrivé en moto-taxi, justement, et vous avez failli mourir. Et c'est pas du tout fait exprès, on n'a pas fait exprès. Vous êtes arrivée vivante et contente.
Ouais.
Et vous êtes arrivée très vite.
Oui. Alors... non, mais c'est vrai que ça colle parfaitement à votre introduction, c'est comme si on l'avait fait exprès. Heureusement, nous n'en avons pas fait exprès, mais voilà.
Bon, bravo d'être là, et par mille morceaux. Alors, votre dernier album, le 5e, porte pour titre « La vitesse ». Et il y a plein de chansons comme ça, plein de morceaux où il est question de vitesse. Dans « Mon cœur », il y a un cœur qui bat très vite. Même dans « Étoile noire », vous dites « J'ai le futur dans le viseur, j'accélère, et le passé qui suit, je ne sais pas comment faire ». Et vous racontez aussi que cet album, vous l'avez écrit en un été, dans un état un peu de grâce, très vite, sans trop l'avoir préparé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ce moment d'accélération?
Comme tout moment d'accélération, comme toute vitesse, en fait, j'ai pas réfléchi une seule seconde. C'est ça qui est étonnant. Et même, au final, quand j'ai écrit tous les morceaux, quand je les ai composés avec Bastien Burger, quand on a produit et tout ça, machin, on n'a pas du tout réfléchi aux morceaux. Donc, en fait, c'est là, même plutôt un an après être entré en studio aujourd'hui, en parlant en promo, que je me rends compte que cet album parle absolument que de vitesse, que d'aller vite, que de tracer sa route,
ouais,
que
de ne pas regarder,
d'aller de l'avant, que de ne pas regarder ses erreurs qui se bousculent en bas, que de tracer, que de vivre vite et vivre fort et en acceptant les montées, les descentes. J'avais déjà fait une espèce de préambule à ça dans Citadelle où j'avais écrit la chanson justement trop vite.
Tout à fait, ouais.
Et du coup, voilà, c'est un peu la suite de ça. Et c'est drôle comme, en fait, cet album ne devait pas d'ailleurs à la base s'appeler La Vitesse, que finalement j'ai appelé La Vitesse, que je me suis retrouvée avec un blouson de course NASCAR sur la pochette alors que c'était pas non plus fait exprès. Et qu'en fait, tout l'album prend forme de cette vitesse et c'est étonnant, l'inconscient.
C'est marrant. Et finalement, c'était pas votre façon de travailler avant. Dans vos 4 albums précédents, il y avait quelque chose de beaucoup plus préparé, anticipé, mûri. Qu'est-ce qui a changé là? C'est marrant.
En fait, je pense que j'ai enfin décidé d'arrêter d'aller à l'encontre de ma nature.
Ouais.
Et c'est tout simplement ce qui s'est passé. Et de faire les choses qui me faisaient plaisir et de travailler comme ça me faisait plaisir. Après les 2 ans de confinement et de difficultés, voilà, l'avortement de Citadelle et toutes ces choses-là, ça a été vraiment très pénible. Et du coup, je me suis dit bon, là, j'en ai marre de souffrir, j'ai plus envie de souffrir. Qu'est-ce qui me ferait le plus plaisir? Eh ben, d'aller en studio faire un album, comme dans les années 70 où on s'enfermait en lockout dans des studios et on faisait 50% boire du vin et 50% faire de la musique et que 100% s'amuser et aimer son travail.
Ouais, ça rappelle un peu ce lieu. Vous avez, comment il s'appelle ce lieu-là?
Où j'étais moi? Ouais. La Frette sur Seine.
Voilà, il ressemble un peu de la Frette, à Hérouville, au château d'Hérouville où votre père et notamment Iggy Pop ou Bowie avaient beaucoup enregistré. C'est un peu la même ambiance, un lieu où on est en immersion, où on vit autant qu'on travaille finalement.
Exactement. Et en fait, ce qui est assez étonnant, bah, on s'est complètement liés d'amitié, voire tombés en amour avec les gens qui travaillent dans cet endroit, qui sont des êtres fabuleux et qui sont devenus un peu voilà nos colocs en fait, notre famille pendant ce temps-là. Et en fait, c'est drôle parce que c'est pas toi qui vas vers le travail, vu que t'es dans un cadre de travail, même si c'est aussi un cadre de vie, c'est que tu laisses la création venir à toi. Et toi, tu vas pas vers elle, tu la laisses venir. Et même si tu travailles et que tu la confrontes, mais il y a quelque chose dans l'air, en fait, qui est ultra inspirant.
Quelque chose d'une immersion. Ouais. Et d'ailleurs, ça nous ramène à notre thème, parce qu'on s'aperçoit que quand on est en train de dire, voilà, on va vite, c'est un peu comme si on n'était pas présent, comme si on était agité. Mais en fait, on s'aperçoit que quand on est bien, quand on est dans le plaisir vite, finalement, il y a un phénomène de ralentissement qui fait qu'on produit en étant concentré. Et que finalement, la vitesse rejoint une forme de tranquillité, au fond.
Ben moi je me sens bien que quand je suis en mouvement, donc que quand je prends de la, alors ça peut être de la grande vitesse ou ça peut être à moyenne vitesse, mais je suis heureuse que quand je suis en mouvement et l'immobilité me fait pas du bien. Et il y a quelque chose en fait que je trouve assez étonnant, c'est qu'en fait la stabilité, l'immobilité, la contemplation, toutes ces choses-là sont considérées comme quelque chose de bon, de positif pour l'être humain, alors que la vitesse, l'accélération, pas forcément réfléchir, la spontanéité, toutes ces choses-là, machin, sont plutôt considérées comme quelque chose de négatif, comme quelque chose, des gens qui réfléchissent pas. Et en fait, je pense qu'on se trompe royalement. Il faut accepter nos différences, c'est comment on est. Il n'y a pas de bonne manière d'être ou de mauvaise manière d'être. Comme la solitude, c'est considéré comme quelque chose. Voilà, et c'est les gens qui aiment bien être seuls, la solitude, réfléchir et tout ça. Moi, j'aime pas être seule, j'aime pas la solitude, ça m'emmerde, et j'ai besoin de, voilà, donc, on est tous différents, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière d'être un être humain.
Voilà. Alors, vous avez une voix particulière. On va écouter tout de suite un extrait de votre album, le 4e, Citadelle, Trop vite. Mais avant ça, je voudrais faire un petit moment de philosophie parce que il y a un sociologue et philosophe allemand que j'aime bien, qui s'appelle Hartmut Rosa. Et il a écrit 2 livres successivement. Et vous allez voir que c'est notre sujet. Le premier livre s'appelle Accélération. Et le 2e livre s'appelle Résonance. Et c'est marrant parce que ce que dit Hartmut Rosa, donc c'est des gros livres, je vais vous les résumer parce que je suis gentil, c'est que l'accélération nous empêche de vivre. Tout s'accélère. Les flux, les flux de capitaux, les flux de personnes, les idées, les stories, les infos. Et qu'on risque de perdre comme ça un sens de l'humain, un sens de la relation, un sens de la tendresse, un sens de l'amour, un sens du regard, un sens de la contemplation. Et donc quand Hartmut Rosa écrit ce livre Accélération, il s'arrête là. Donc là, on est complètement déprimé. On se dit, mais comment on va faire si tout s'accélère? Moi, je ne suis plus humain. Et puis, quelques années après, il arrive avec un autre livre sublime qui s'appelle Résonance. Et que nous dit Hartmut Rosa? Eh bien, c'est qu'au fond, même dans le monde qui s'accélère, on peut trouver des caisses de résonance. C'est-à-dire, à un moment, je regarde le ciel et je le laisse résonner. À un moment, je chante et j'entends ma voix résonner. À un moment, je regarde quelqu'un et quelque chose comme une résonance a lieu. Et on n'est pas obligé de ralentir des heures et de partir vivre dans un ashram en Inde et de tourner le dos à l'accélération du monde pour enfin entendre la vie résonner. Il suffit de s'ouvrir. Il suffit d'avoir cette qualité de présence. Et à mon avis, c'est ça que vous avez vécu dans l'écriture de cet album. C'est que vous êtes accéléré pour aussi entendre résonner la vie.
Mais exactement, c'est très beau d'ailleurs. Mais en fait, quand je parle d'accélération, ça veut pas dire que que je suis tout le temps en train d'être dans une boulimie de vie. C'est pas du tout ça. Au contraire, évidemment, je prends beaucoup d'accélération. Je loupe pas une miette des choses. Et oui, la vie va de plus en plus vite. Mais je mets énormément de poésie. Dans Résonance, je vois aussi la poésie de contempler le ciel, d'écouter sa voix qui résonne. C'est très beau d'ailleurs d'être sur scène, pleinement sur scène, complètement sur scène, de porter les gens dans mes bras, de les écouter crier, d'être pleinement
Oui. Et ben justement,
j'arrêtais pas de vous faire des petits signes et c'est très déconcertant pour discuter, je vous avoue, parce que j'ai l'impression que vous n'êtes pas pleinement avec moi justement, vous n'êtes pas dans la résonance.
Je vais vous dire la vérité, c'est parce que j'hésitais entre vous proposer de chanter justement.
Oui, d'accord.
Ou alors passer le morceau trop vite, vous préférez quoi d'ailleurs ? Soit vous chantez maintenant a cappella, soit on écoute trop
alors,
vite.
Alors ça dépend, je chante mais vous m'écoutez, vous arrêtez de regarder vos copains.
Alors vous chantez, on y va.
OK, très bien. Non mais oh.
Mais ils sont sympas mes amis. Hein.
Oui, je sais, mais on est quand même chez France Inter. C'est vrai. L'invité avec l'animateur. Bon.
Vous voulez chanter quoi alors ?
Je sais pas. Je vais chanter. J'ai chanté mon cœur.
Alors excellent. Je précise que c'est donc un morceau de votre dernier album,
ouais.
La Vitesse, sorti en juin dernier. Izia Higelin, et même on pourrait dire Izia, chante pour nous en direct mon cœur.
Accaparé par les ondes, l'information continue. Aucune accalmie, pas une seule seconde. Mon cœur, et ton battement s'accélère. Je vais finir par te perdre. Crache tes poumons, fais tomber la fièvre. Mon cœur, un, deux, trois, je te crois. Quand tu portes à bout de bras ta force et ta foi, alors que tout autour de toi s'écroule et se crache, ce pourquoi l'on vivait. Un, deux, trois, je te crois. Quand tu portes à bout de bras ta force et ta foi, alors que tout autour de toi s'écroule et se crache, c'est pourquoi l'on vivait.
Merci beaucoup, Izia.
Rien, beaucoup.
C'était très beau. C'était, on a bien compris ce que c'est que la résonance. Alors, je précise quand même que là, on parle de vitesse, de, mais que, au fond, vous avez une trentaine d'années, vous avez commencé très tôt, vers 14-15 ans. Donc, vous êtes, bien sûr, la fille de Jacques Higelin. En général, j'aime pas rappeler l'histoire de famille. Dans votre cas, c'est un plaisir de rappeler ça parce que vous assumez cet héritage. Vous en parlez souvent. Vous êtes aussi la demi-sœur de Arthur H, que j'ai reçu à ce micro il y a un an. On a fait une sublime émission sur la poésie. Il était arrivé en retard, d'ailleurs, lui aussi. Et, je voudrais quand même dire que...
C'est le quart d'heure Higelin, on disait ça.
Voilà.
Avec mon père.
Et vous avez quand même, malgré tout, pris votre temps et vous avez construit votre légitimité sur scène, surtout. En faisant beaucoup de scènes, de toute jeune, en faisant des premières parties d'ailleurs d'Iggy Pop assez jeune. Qu'est-ce qui se passe quand vous êtes sur scène par rapport à cette question de la résonance? Voilà, tout le monde n'est pas aussi à l'aise sur scène, tout le monde ne sent pas comme ça les choses sur scène. Pourquoi ça vous a été si naturel, au fond, la scène?
Bah parce que j'ai eu comme meilleur exemple, je pense, mon père qui était mon premier exemple de d'une personne qui faisait des concerts. Et c'est vrai que pour moi, faire un concert, c'était ça en fait, c'était s'offrir corps et âme aux gens, ouais. À sa musique, à son public, à la scène, à ses musiciens, de vivre intensément ce moment précieux. Et
vous
voilà,
avez été à bonne école. Hein.
Oui, oui, voilà, c'est ça. Et du coup, j'ai pas vraiment d'autres exemples. Et j'ai
Vous étiez, vous alliez l'accompagner toute petite?
Ouais, ouais, je l'accompagnais en tournée sur scène. Je chantais avec lui. Je devais avoir 7-8 ans. Et voilà, c'était. Ouais.
Vous faisiez des petites impros, c'est ça? Ils étaient
ouais,
au piano
ouais.
Et vous chantiez.
Oui, non, mais je venais, je faisais les refrains de tête en l'air, ce genre de choses. Ouais, ouais, on a beaucoup partagé la scène ensemble.
Et bien justement, on va écouter un duo, votre père et vous. Vous reprenez la ballade pour Izia que votre père avait écrit pour vous. Et là, vous êtes ensemble sur scène.
D'où viens-tu, ô ma tendre merveille,
mon amour absolu,
bercé par le flot des sortilèges et des rêves étoilés.
Sous le grand manège, chanté.
Peut-être ce qui me relie à toi,
lie à toi,
n'est autre que ce corps don de soi,
don de soi.
Que tu m'enroules autour
du cœur pour l'empêcher de courir,
se faire prendre ailleurs.
Voilà, c'était la ballade pour Izia. C'est vraiment une sublime chanson que votre père a écrite pour vous. Alors tout est dingue parce que d'abord... être aimé comme ça, c'est bien. Ensuite, c'est un amour qui est en plus exprimé, qui est en plus chanté. Et finalement, vous le chantez avec lui. Donc c'est vrai qu'on comprend d'où ça vient, la résonance.
Ouais, ouais. Mais c'est vrai que c'est absolument fantastique d'être aimé comme ça. Et que ce soit exprimé, ouais, c'est vrai. En plus, au-delà des chansons, dans les interviews, même aux gens, en fait, c'est incroyable. Quand je croise des gens dans la rue qui me parlent de papa ou tout ça, et ou qui l'ont croisé, qui me disent « Ah, puis il arrêtait pas de parler de vous, il était tellement fier de vous, à chaque fois il parlait de vous », je me rends compte c'est un vrai cadeau du ciel. C'est ce que je dis dans la chanson royale que j'ai écrite sur la vitesse.
On avait la vie royale.
Ouais. Et je dis, c'est fou la chance qu'on a eue d'être réunis au milieu du bordel. Parce que pour moi, mon père et moi, on est comme deux âmes sœurs, d'une certaine manière, qui ont dû prendre forme sous plein de formes différentes dans des vies antérieures. Et on s'est retrouvés là. Voilà.
C'est une très belle chanson aussi de votre dernier album, Royal. On avait la vie royale, on était tous les deux. On va écouter maintenant La Vitesse, qui est le morceau un peu phare de votre dernier album.
Je prends de la vitesse.
C'était Isia, évidemment, La Vitesse.
Sous le soleil de Platon.
Ça va vite ! Ça va trop vite ! Ça va trop vite !
Charles Pépin, sur France Inter.
Alors nous sommes toujours avec Isia Higelin. Nous parlons de votre dernier album, La Vitesse. Alors vous êtes en concert jeudi à Hérouville en Normandie, le 16 juillet aux Vieilles Charrues. Et je voudrais qu'on revienne à ce que vous chantiez là. Quand revient le stress, vous prenez de la vitesse. Ça marche, la vitesse contre le stress ou l'angoisse?
Ah bah oui. Parce que c'est quand je fais rien que je commence à avoir la tête pleine de stress et d'angoisse. Et quand je prends de la vitesse, je pense plus à un problème, donc ça va mieux.
Il y a beaucoup de thématiques du mouvement dans cet album, notamment il s'agit d'aller de l'avant. Voilà, aller de l'avant, on a le futur dans le viseur, on a son passé avec soi, on ne sait pas quoi en faire. Je voudrais savoir dans quelle catégorie philosophique vous vous rangez. On s'aperçoit qu'il y a deux grands courants en philosophie pour aller de l'avant. Il y a ceux qui disent, comme on va dire Bergson, si tu veux aller de l'avant, il faut prendre tout ton passé. On va de l'avant avec tout son passé avec soi. Et si on n'accueille pas tout son passé, on n'arrive pas à aller de l'avant. Donc ça, c'est Bergson. Et puis de l'autre, il y a une position qu'on pourrait dire moderniste, c'est pour aller de l'avant, je dois rompre avec mon passé. Je dois ne regarder que vers l'avant et ne pas me retourner vers mon passé. Vous êtes plutôt bergsonienne, à savoir je vais de l'avant avec tout mon passé, ou alors je lâche mon passé, je lâche du lest et j'avance.
Ça dépend des fois. Non, mais c'est possible d'être les
deux.
C'est
possible, bien
sûr.
Bon,
bah, génial. Non, ça dépend des fois, des moments où ça dépend des situations où je vais prendre tout mon passé en considération. En fait, je pense que c'est plutôt les choses positives que j'essaie d'accompagner avec moi, les choses, les belles choses qui sont arrivées dans ma vie et puis les erreurs que j'ai pu faire. Je pense que c'est surtout les moments où je me suis pu me dévaloriser, les moments où j'ai perdu confiance en moi dans le passé, où je sais qu'aujourd'hui je suis une autre version de moi-même forcément, parce qu'on est tout le temps en mouvement, en évolution. Là, dans ces moments-là, j'essaye de m'en débarrasser.
Mais il y a beaucoup de la thématique de l'erreur qui revient dans les paroles.
Ouais.
Pourquoi vous avez fait des erreurs qui n'ont pas été vertueuses?
Oui, mais c'est plutôt des erreurs, c'est plutôt des trucs de jugement vers moi. Je pense que quand on a 20 ans, on pense qu'on est immortel et qu'on va vivre toute la vie. Donc il y a quelque chose un peu de d'inconséquent et puis on ne se rend pas compte de la chance qu'on a d'être là, la chance qu'on a de vivre notre vie, la chance qu'on a de... Je pense qu'on... Voilà, c'est pas... Alors qu'à 30 ans, forcément, on sait un tout petit peu plus qu'on va mourir, donc il y a quelque chose... On profite plus, je pense. Et quand je parle des erreurs, c'est des comportements, peut-être destructeurs que j'ai eu envers moi, à me dévaloriser, tout ça. J'ai plus envie de vivre comme ça, c'est tellement handicapant.
Mais vous êtes passé par le divan?
Ouais, j'en suis là.
Ouais. Ça se passe bien.
Ouais, c'est top.
Mais là, c'est une forme de ralentissement quand même. Quand on s'allonge une fois par semaine ou deux fois, moi j'aime bien cette idée qu'on peut speeder, accélérer autant qu'on veut, tant qu'on est capable parfois de se poser, non?
Alors ça, il faut que vous en parliez avec mon psy, parce qu'à chaque fois qu'il me voit débarquer, il a « Ok, la tornade ».
Il vous appelle la tornade?
Non, je rigole. Il a pas ça, mais non, mais je sais pas. Ça dépend des séances, ça dépend des moments, ça dépend des instants. Des moments c'est très agité, d'autres c'est plutôt, je sais pas.
Alors, votre prénom Isia veut dire, je crois, ensoleillé en géorgien, et c'est un prénom qui est très rare, mais qui a été beaucoup donné, je crois, à deux moments. Quand votre père a fait la balade pour Isia, et puis quand vous avez eu votre victoire de la musique, je crois, en 2013.
Ouais, mais même là, de manière assez... c'est extrêmement touchant. Et encore là, je jouais aux Eurokéennes samedi, et il y a encore un couple qui est venu me faire signer un vinyle en me prenant dans les bras, en me disant qu'ils avaient appelé leur fille Isia, et ça arrive extrêmement, extrêmement souvent.
Ouais, ça vous fait plaisir?
Oui.
Alors on va écouter un autre extrait de votre dernier album, qui me semble être une bonne philosophie de la vie. Alors Isia, c'était « Dehors, c'est la vie ». On sent que c'est venu assez rapidement, comme ça, j'adore ce refrain. Vous voulez dire quoi exactement?
En fait, c'est plutôt une crise... Enfin, c'était pendant le déconfinement que moi j'ai très mal vécu.
Ouais.
C'est pour ça que je me suis reconfinée en studio d'ailleurs avec Bastien. En fait, ah oui. Parce que moi, je savais pas, j'avais pas du tout envie de partir sur la plage, voir plein de monde, consommer.
J'avais peur.
Consommer. Mais c'est pas
peur
que j'avais
peur du retour de la vie.
J'avais pas peur du Covid, hein, je m'en fous.
Non,
mais
compris.
J'avais peur du retour à la vie. C'est hyper, enfin, j'ai trouvé ça hyper vénère, en fait, de tout à coup, on nous a enfermés, et puis tout à coup, on était vite, faut que ça recommence, faut que vous retourniez consommer
comme
à la
une
plage.
Comme
voilà.
Une ouais.
Faut vite que vous alliez dehors, c'est bon, la vie, les terrasses, les machins, les trucs, consommer, aller dans les magasins, prendre des trucs, machin. Et en fait, dehors, c'est la vie, quand je dis ça, en fait, c'est plus la voix, en fait, de, du gouvernement, des injonctions sociales, tout ça, que moi qui dis aux gens que
ah
dehors
oui,
c'est la vie.
Je comprends.
C'est plus les gens qui disent dehors c'est la vie, vas-y. C'est pour ça qu'à la fin je dis sors et consomme, et sors et consomme, parce que voilà, tout à coup on nous a dit surtout restez chez vous, et puis du jour au lendemain allez-y. Donc
ouais, c'est ça qui est intéressant. En fait, dans la notion de résonance qu'on évoquait tout à l'heure, ça veut dire qu'on peut entendre résonner dans une polysémie, une phrase avec plusieurs sens. Et donc c'est exactement comme ça que j'avais entendu cette chanson. En fait, au début on se dit dehors c'est la vie, c'est une invitation à sortir, à aller dans la vraie vie. Et dans ce cas-là, je pensais même à ce vers de René Char que je trouve très beau, qui dit il faut s'établir à l'extérieur de soi, au bord des larmes et dans l'orbite des familles, si nous voulons que quelque chose hors du commun se produise, qui n'était que pour nous, donc ce serait presque le premier sens. C'est je vais au dehors de moi, de ma petite identité, pour exister vraiment. Et puis en fait, deuxième sens, il y en a marre, quoi. Je vais dehors quand je veux, en fait. Je vais pas dehors sur commande, voilà.
Et donc en fait, c'est pour ça que je le crie d'ailleurs dans le refrain. Ouais. Si c'était plutôt une invitation sympathique, je dirais dehors, c'est la vie, avec quelque chose de chouette. Là, c'est plutôt un peu en mode 1989.
Ouais. Ouais. Et d'ailleurs, il y a souvent ça dans vos paroles. Par exemple, dans la chanson La Vitesse. Donc c'est la chanson éponyme. On dit, enfin, l'album porte le titre de cette chanson. Mmh. Et vous dites au début, je vais pas rester crevé en restant à côté de toi toute ma vie. Je prends de la vitesse. Alors au début on se dit c'est pas très sympa, elle parle de qui? Mais en fait finalement c'est peut-être de vous-même que vous parlez.
Ouais, mais toutes mes chansons c'est ça en fait. Toutes mes chansons je parle de moi de toute façon. Alors après que je dise je, tu, il ou elle ou j'en sais rien. Mais oui, je vais pas rester là assise à crever à tes côtés. C'est plein de choses. En fait je parle pas à quelqu'un évidemment en mode premier degré, ce serait... Mais oui, je me parle à moi... évidemment, c'est voilà, quand je fonds, quand je melte dans des travers un peu pénibles, voilà, je me dis attends non mais stop là, prendre la vitesse.
Ouais. Voilà. Et c'est presque, vous savez, on se demande souvent ce qui fait la différence entre par exemple un écrit qui est vraiment de la littérature et puis un texto, ou ce qui est une œuvre d'art et ce qui est pas une œuvre d'art. Il y a une définition qu'on trouve chez Nelson Goodman qui est assez belle, qui dit en fait c'est de l'art quand ça a plusieurs sens. Quand ça a une densité symbolique. Et c'est ça qu'il y a souvent dans vos chansons, c'est pour ça que ça résonne. On croit que c'est monosens, qu'il y a une seule idée. En fait, pas du tout. Ça explose dans une forme de polysémie. C'est ça aussi la résonance. Et d'ailleurs, dans ce mélange, il y a aussi beaucoup joie et tristesse. Et parfois mélangé, parfois la joie l'emporte, parfois la tristesse l'emporte. Je voudrais qu'on écoute un très beau duo que vous avez fait avec Dominica, qui parle justement de ce sentiment de solitude. Isia, c'est votre très beau duo avec Dominica. C'est étonnant de se mettre à deux pour parler de l'être essolé.
Ouais, mais en fait, je rêvais de chanter avec Dominique. Et c'est mon morceau préféré de Citadel avec Dragon de Métal. Je l'adore, ce titre. Mais
ouais, votre quatrième album, donc l'avant-dernier, ouais.
Ouais. Et j'adore ce morceau. Et pour moi, c'est marrant parce que tous mes albums, ils ont un peu des miroirs, en fait, avec les chansons. Et pour moi, Esselé, c'est un peu le miroir de la vitesse, le morceau de la vitesse. Ouais. Et un truc un peu comme ça. Mais oui, je parle d'être seule, j'ai peur de devenir fou. C'est scellé dans sa tête. Et puis la vitesse, c'est aussi je prends de la vitesse, j'en perds. Ouais. Et quand revient le stress, je reprends de la vitesse. La tristesse, joie, tristesse. Enfin, toutes ces choses-là, c'est parce que je pense vraiment que je me sens vraiment, vraiment multiple en fait, dans tout ce que je ressens. Et je pense que on n'est pas une chose ou l'autre. De toute façon, c'est impossible. On est une multitude de pensées, de sensations.
D'ailleurs, Dominika sera sous le soleil de Platon à la fin du mois d'août. Et c'est assez beau, cette manière dont vous parlez comme ça, de cette espèce de flux, quoi.
Ouais,
ça monte, ça descend, ça s'accroît, ça diminue. Ça fait beaucoup penser à la définition que donne Spinoza dans l'éthique de la joie et de la tristesse. En fait, il parle de mouvements comme ça, d'accroissement ou de diminution.
Ouais.
Et donc, quand on s'accroît, quand on s'ouvre, quand ça monte, ça s'appelle la joie. Alors il dit voilà, la joie est le passage d'une moindre à une plus grande perfection. Ça veut dire on accroît sa puissance d'exister. Et puis quand ça rediminue, c'est la tristesse. Mais finalement, c'est le même mouvement de la vie.
Mais bien sûr. Et quand je dis le temps qui passe, je parle dans le
dans
remède.
Le remède,
je dis le temps qui passe, c'est le remède à la vie. Et ça, je le crois profondément. Mais parce que tout passe. Mais comme la joie. Et comme la sensation de bien-être, et comme la sensation, on parle souvent de phases dépressives, mais il y a des phases d'euphorie également. Et en fait, tout passe. Et en fait, la stabilité, elle est impossible. Et moi, c'est ce que je suis en train de comprendre en fait. Et aussi à travers ce disque, c'est que la stabilité, c'est impossible à trouver. Alors, il y a des vies plus ou moins stables. La mienne est légèrement chaotique, mais il faut embrasser ces sensations de bien-être comme ces sensations de mal-être et ne pas se juger en temps réel et essayer de se comprendre et de s'analyser. C'est important d'apprendre à se comprendre soi, mais pas forcément tout le temps d'analyser les sensations de bien-être et de mal-être et pourquoi elles arrivent et elles viennent.
Accueillir
le raisonnement de ses émotions.
Ouais, et la résonance. Et d'ailleurs, il y a une expression que j'ai découverte récemment, je trouve jolie, c'est il faut chevaucher ses peines comme ses joies. Chevaucher ses peines comme ses joies. C'est joli.
J'ai un morceau qui s'appelle Chevaucher d'ailleurs sur Citadel avec Jeanne Haddad que j'ai fait un duo.
Ouais.
Où je dis ça, chevaucher, rider encore.
C'était Parcels Famous.
France Inter. Sous le soleil de Platon.
Nous sommes toujours avec Izia Higelin, sous le soleil de Platon, sur France Inter. Nous parlons de notre dernier album, La Vitesse, de cette joie, de cette tristesse, de tout ce qui charrie comme ça, tout ce qui est la vraie vie au fond. On n'a pas parlé de cinéma, donc vous êtes évidemment actrice, vous avez fait plein de films, César du meilleur espoir féminin en 2013 pour Mauvaise fille, et puis plein d'autres films, La belle saison de Catherine Corsini, Camille Claudel dans Rodin de Jacques Doyon, plus récemment Loin du périph sur Netflix avec Omar Sy et Laurent Lafitte, un très gros succès. Dans votre rapport au cinéma, est-ce que c'est la même vitalité que sur scène, que quand vous chantez, ou est-ce que le fait de jouer comme ça dans des films ne vous oblige pas à un autre rapport au monde et aux êtres ?
Ah si, bien sûr, ça n'a rien à voir. C'est deux arts qu'on assimile vachement ensemble, mais c'est vraiment les deux choses les plus différentes que j'ai jamais pu expérimenter de ma vie, quoi. Je pense que peut-être le travail de metteur en scène se rapproche plus de celui de chanteur, parce que t'es réalisateur, t'es plus aux commandes de quelque chose, alors que c'est vrai que quand t'es acteur, tu vis plus dans le désir de l'autre et t'es plus dans un ralentissement là pour le coup, dans une résonance. Mais il y a quand même des moments de grâce que j'arrive à toucher quand je joue, souvent dans des longs moments de jeu où je perds pied un peu entre réalité et comédie, où là c'est vraiment des sensations presque proches de la scène en fait, parce que je m'abandonne totalement. Mais bon, c'est vrai que tout ce qui entoure la comédie, c'est-à-dire l'attente et tout ça, moi c'est quelque chose que j'ai quand même beaucoup 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 de mal à gérer,
quoi.
C'est ça
que je pensais.
Non, j'ai beaucoup de mal à gérer ça, donc c'est pour ça que je préfère faire des films quand je suis dans des moments où je tourne pas
je comprends.
La musique, parce que sinon c'est deux énergies qui sont beaucoup trop différentes.
C'est ça, la multiplicité c'est bien, mais là ça fait un peu trop.
Ouais.
Vous avez évoqué tout à l'heure, avant d'écouter Parcels, Le Remède, donc c'est un des titres de votre dernier album, La Vitesse. Et il semblerait que quelque chose d'étrange soit arrivé pendant que vous étiez dans ce château de La Frette en train de composer cet album. Le temps qui passe et le remède à la vie, comme si peut-être votre père, qui est donc mort il y a 3-4 ans, était intervenu, vous avez soufflé cette chanson.
Oui, il y a eu une inspiration en fait, une présence, je pensais à lui, je regardais le ciel et Bastien était en train de jouer du piano, il y a cette phrase qui m'est venue et je me suis mis près de lui, on a commencé à chanter et puis... J'ai commencé à chanter, il a continué à jouer, et puis on a eu tous les deux la sensation qu'il y avait sa présence et qu'il nous a guidé vers ce morceau qui lui ressemble d'ailleurs.
Donc, on va justement en écouter un extrait. Le temps qui passe, c'est le remède à la vie. Alors je précise que le Bastien que vous évoquez est le père de votre enfant.
Mmh.
Donc vous étiez ensemble quand votre père vous a soufflé à lui la musique et à vous les paroles. Votre père qui disait dans une très belle chanson « Je n'élève pas ma fille, je m'élève avec elle
».
Vous qui maintenant avez un enfant, un petit garçon je crois, est-ce que vous comprenez cette phrase ? Est-ce que vous êtes pareil ou est-ce que vous élevez votre fils ?
Non, je m'élève aussi avec lui également. Et puis bon, on a une vie un peu particulière parce qu'avec Bastien, du coup, on est ensemble en tournée, ensemble sur la route, ensemble en studio. Donc, on emmène notre fils quand on peut avec nous et ça lui fait plein de belles choses à vivre. Et oui, donc forcément, on l'emmène dans notre vie. Je crois pas forcément. Enfin, je crois pas en rien d'ailleurs, mais moi, je vis ma vie où je change pas forcément ma vie. Je fais énormément de place pour mon enfant, mais je l'emmène plutôt avec moi dans les expériences de ma vie, comme mon père faisait également. Et j'adapte pas vraiment. Enfin, j'ai pas vraiment le choix de toute façon.
Ouais.
Ma vie à celle de mon enfant et ma mère est extrêmement présente. Elle s'occupe très très bien de mon enfant quand je suis pas là. On habite à côté. Tout ça, c'est hyper joyeux en fait. Et donc oui, je l'intègre à ma vie. C'est ce qui fait des enfants très indépendants, autonomes, je pense.
Ouais, et puis c'est aussi la transmission, ça se fait comme ça. C'est pas des grands discours. D'ailleurs, je sais pas, enfin, si je peux dire ça, mais c'est vrai que vous lui ressemblez physiquement à votre père quand même. Il y a quelque chose qui est là, qui est indiscutable.
De plus en plus d'ailleurs, c'est terrifiant. Non mais quand je vois des idées, comment je parle, comme sur scène. je racontais à la fois, j'étais à la maroquinerie et je me retrouve en loge et tout ça, et on venait de finir les trois trucs, et je me retrouve assise. Je parle trop?
Pas non, du tout.
Et je me retrouve assise. Et je me retrouve assise derrière le miroir, et j'ai une flûte de champagne et une cigarette, et je me regarde dans la glace après un concert, et j'ai vraiment eu l'impression de voir mon père comme quand je le voyais en loge petite. Donc c'était.
C'était agréable ou c'était
ouais,
bizarre?
C'était très agréable.
Et ben justement, on va écouter un extrait de cette magnifique chanson où il est question d'une vraie définition de l'amour. Je t'aime tel de votre père Jacques Higelin.
Rien ne s'oppose à ton désir d'offrir à la vie toutes les chances de s'épanouir en libérant les forces vives et les élans de ton énergie flamboyante. Le rock te colle à la peau, la rage au cœur, le diable au corps, les ailes qui te poussent dans le dos t'aideront à prendre ton envol. Je t'aime tel, tellement tu sais si bien, d'un sourire ou d'un geste plein de grâce, apaiser mes colères et d'un sourire divin ensoleillé mon cœur.
Voilà, magnifique chanson de votre père, je t'aime tel. C'est vrai que, au fond, souvent, on aime les gens comme on voudrait qu'ils soient. On aime une idée, mais aimer les gens tels qu'ils sont, c'est ça l'amour.
Ouais, bah oui. C'est drôle parce que je m'en suis rendu compte il y a pas longtemps dans Royal. Je dis, jeune fille dans la fleur de l'âge, c'est toi qui apaises ma colère.
Ouais.
Et en fait, je viens de me rendre compte qu'en fait, je lui ai pris cette phrase. On s'apaisait mutuellement, en fait. Dans toutes les chansons que je lui ai écrites, que ce soit sur Citadelle ou sur La Vitesse, c'est vrai que c'est drôle, je reprends plein de mots de lui qui m'adresse comme des réponses.
Ouais.
Et il a écrit aussi Elle est si touchante. Mmh. C'est la dernière, et j'ai appris récemment que c'est la dernière chanson qu'il a écrite sur Jacques Higelin 75, le dernier album qu'il a écrit.
Ouais.
Et Dominique Mahut, qui accompagnait mon père sur scène, m'a appris récemment que Elle est si touchante, c'est la dernière chanson que mon père a jamais écrite en fait de sa vie, c'est son dernier texte, et c'est une chanson qui m'a adressée. Donc c'est une belle histoire d'amour. Ouais.
Et donc vous lui répondez dans le remède, il avait aussi écrit Ce qui est dit de t'être fait, notamment
ouais.
sur vous. Enfin, ça fait quand même pas mal de chansons. Par rapport à cette filiation, il y a des gens qui ont du mal finalement à... Ils voudraient s'inventer dans la rupture. Et c'est ça d'ailleurs l'idée de la modernité que j'évoquais tout à l'heure, quand je disais voilà, on peut aller de l'avant avec tout son passé. Mais il y a toute une idée moderniste. Vous savez, il y avait ce qu'on appelait la querelle des anciens et des modernes. En gros, et le mot moderne est né à ce moment-là, les anciens disaient, voilà, il faut quand un roi fait un nouveau monument, il faut écrire, il faut respecter le passé, la tradition, et mettre les choses en latin. Et les modernes ont dit, mais non, il faut tout changer, et la modernité, c'est de casser avec le passé, de rompre avec le passé. Mais je pense que c'est une illusion. Je pense qu'on ne peut pas aller de l'avant en rompant avec le passé. On ne peut que être l'enfant, en fait, de son passé. L'enfant de son enfance. Et il y a des figures comme la vôtre qui nous disent ça parfaitement. En fait, vous êtes clairement la fille de votre père. Pas de votre mère aussi, mais je veux dire,
oui,
vous êtes l'enfant.
Oui, mais j'ai toujours parlé, ça résonne un peu avec ce que vous dites, j'ai toujours parlé de mon père depuis que je fais des interviews, depuis que j'ai 16 ans, depuis qu'on me questionne en me disant « vous êtes la fille de Jacques Higelin », j'ai toujours oui, enfin j'ai jamais été dans la rupture, évidemment j'ai toujours embrassé ma filiation avec ouais. énormément d'amour et de respect, et de voilà, et donc et parce que j'ai toujours dit aussi que si je parlais pas de mon père, c'est comme si je parlais pas de moi en fait, parce que il a construit, mais ma mère également, mais lui particulièrement avec la musique et tout ça, a quand même construit tout ce que je suis aujourd'hui et tout ce que voilà et tout ce que je deviens. Donc si je parlais pas de lui, c'est comme si je faisais un énorme trou dans mon passé en fait, parce qu'il est quand même à la genèse de mon amour de la musique et des arts.
Je vous ai prévu un petit extrait, vous allez comprendre pourquoi. Alors Isia, vous avez eu quand même une adolescence un peu énervée, un peu en colère. Comment vous avez mélangé comme ça ces influences, être l'enfant de l'amour et puis en même temps avoir un peu la rage?
J'ai toujours été très très en colère, hein. J'ai toujours été très... j'ai beaucoup beaucoup de mal, même encore aujourd'hui, avec n'importe quelle forme d'autorité, hein. C'est très compliqué. C'est pour ça que je fais un travail où j'ai une totale liberté, je pense aussi. C'est pour ça que parfois j'ai un peu du mal dans le cinéma.
Ouais. Mais vous en sortez bien quand même.
Oui, oui, bien sûr, mais c'est vrai que au bout d'un moment, j'ai l'impression de me contorsionner quand même un petit peu. C'est mais oui, oui, j'étais une adolescente très en colère.
Une petite, vous alliez voir des skateurs avec un skate sous le bras, je crois, mais sans savoir skater, c'est juste pour draguer. Mais ils vous demandaient jamais.
J'aimais beaucoup les garçons, ouais, mais globalement encore. Mais c'est non, j'ai été une adolescente en colère, comme on en fait, comme ça arrive, quoi.
Ouais, c'est vrai. Mais c'est quand même particulier d'être en colère quand on a reçu autant d'amour, au fond. C'était ça mon idée.
Ah oui, non, je sais pas, parce que j'épousais aussi la colère de mon père, il était aussi ouais, très en colère.
C'était la transmission.
Je me rappelle, une fois,
ça,
j'avais fait une contre-manifestation, il y avait une manifestation pour les fachos, là, à Saint-Michel, contre le droit à l'avortement et tout ça, machin, et j'étais allée avec des copains, à l'époque, j'étais un peu skin, enfin, red skin, j'avais des jupes à carreaux et des Doc Martens, enfin, bon, bref. Et,
red skin, on voit.
Ouais, ouais, et donc j'étais allée.
Avec des petits kilts Bordeaux.
Exactement. Et j'étais allée, place Saint-Michel, contre-manifester, et on s'était fait tous embarquer par les flics, et on avait été parqués dans un espèce de grand parking, je sais pas trop quoi. Et mon père était venu me chercher, et il avait pas serré la main des flics, et j'étais hyper fière. Et le mec disait, ah, on peut faire une photo, Jacques Higien, il a dit non. Et il est venu me choper, et il m'a fait, viens, on se casse, et il m'a amené dans un bar à côté, et il m'a offert une bière et une cigarette, et c'était un des moments dont je me souviendrai toute ma vie.
Eh ben, Isia Higelin, merci beaucoup de nous avoir raconté ça et d'avoir été ce matin, plus que jamais, la fille de votre père, ce qui n'est en aucun cas réducteur. Je vais essayer de résumer pour nos auditeurs la philosophie de la vie qui a été celle ce matin. Je fais souvent ça. Ce que j'ai entendu, c'est une philosophie cash, sensuelle et cash. Nietzschéenne, évidemment, puisque Nietzsche nous disait que dans un corps comme ça, il y a un tumulte de passions contraires, la joie, la tristesse notamment, un tumulte de passions contraires, mais complices. Une philosophie de l'action, j'aurais envie de dire aussi. On se souvient, voilà, il y a un moment, il faut y aller. C'est pas parce qu'on est prêt qu'on y va, c'est parce qu'on y va qu'on est prêt. Et puis enfin, évidemment, une philosophie de l'héritage. Finalement, nous ne pouvons aller de l'avant qu'avec tout notre passé. Nous ne pouvons nous inventer, nous ne pouvons fonder de la nouveauté qu'en étant pleinement des héritiers. Isia Higelin, merci beaucoup. Votre dernier album, La Vitesse, est magnifique. On l'a entendu résonner ce matin, comme quoi on peut, au cœur de l'accélération, goûter des plages de résonance. Cette émission a été réalisée par Alicia Vullo, merci beaucoup, avec à la technique Arnaud Caillé, à la programmation musicale Valentine Chudebois, aux illustrations sonores Romain Couturier. Elle a été préparée et très bien préparée, merci beaucoup, par Vera Lou Deride et Fabrice Rivaud. Quant à moi, je vous retrouve demain matin à 9h précisément sous le soleil de Platon sur France Inter.